Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis trop contente d'échanger avec Christophe Pelé.
Le classique, c'est notre formation. Je crois qu'on est fondé là-dessus. Enfin, on est voilà. Donc ça, il faut jamais l'oublier. C'est nos racines. C'est moi, je prends toujours l'exemple du musicien, le guitariste qui va faire son solfège. Les meilleurs guitaristes du monde, ils font encore leur solfège aujourd'hui. Et ça, c'est des bases classiques. Et en cuisine, on doit avoir nos bases et qui sont fondamentales. Puisque si vous allez faire de la musique aujourd'hui juste à l'oreille, ça va durer 2 ans. Au bout de 2 ans, vous êtes en saturation. Donc le classique vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc forcément. Fondamental quoi.
Pourquoi Christophe? Parce que le chef du Clarence, 2 étoiles au guide Michelin, réussit à faire se rapprocher les contraires, à exprimer quelque chose de très singulier dans un hôtel particulier d'allure classique du 8e arrondissement de Paris. Avec mes copines, c'est l'adresse qu'on se refile pour les anniversaires, un lieu waouh avec une cuisine équilibriste, pleine de goût, à la fois délicate et sauvage, brute et technique, sobre et sophistiqué. Avec Christophe, nous avons parlé de dons, de grands écarts, de langoustines et de plaisir. Bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Tu as la réputation de ne pas te livrer facilement en interview. T'aimes pas ça parler de toi?
Ça commence déjà. Si ça dépend, mais ça dépend comment c'est amené. Enfin bon. Et puis oui, peut-être que j'ai un peu de pudeur, effectivement. Ouais. Je vais en avoir pas mal même.
On va revenir à tes débuts. Comment t'es arrivé dans le métier?
Dans le métier, j'ai commencé très tôt. J'ai quitté l'école à 15 ans, en troisième. Et puis, bon, je voulais faire carrément autre chose que de la cuisine. Hein. C'était vraiment pas du tout mon métier que j'avais envie de faire.
Tu voulais faire quoi?
Le métier que j'avais envie de faire, parce qu'aujourd'hui, ça l'est. Bon, moi, j'étais un petit fouteux, quoi. Tu vois, j'étais un rêveur aussi, quoi, déjà à l'époque. Et puis, je montais à cheval aussi, quoi. Donc, j'avais deux univers qui me plaisaient beaucoup et dans lesquels j'ai pas pu aller. Donc, le troisième, c'était comme j'étais un peu gourmand, j'étais manuel. Donc, voilà, ça m'allait bien de faire un peu de cuisine, quoi. Donc, je savais pas si j'allais en faire mon métier. En tout cas, c'était une étape. Ça me plaisait beaucoup. L'artisanat me plaisait. Je trouvais ça joli, les couleurs des ingrédients, ce qu'on en faisait. Enfin, des trucs basiques, hein. Aujourd'hui, tu regardes, tu trouves ça. Enfin, c'était les années 90, donc il y a bien longtemps. Mais voilà, cet univers me plaisait pas mal à ce moment-là, quoi. Donc,
tu faisais des gâteaux, des choses
ouais,
comme ça.
Des pichots, des petites choses.
D'enfants, enfin.
Je me souviens, avec des radis, on faisait des fleurs, enfin des trucs complètement has-been aujourd'hui, totalement. Mais c'est pas grave quand t'es jeune.
Mais c'est ça
jeune,
qui t'a
tu
donné
vois,
envie, enfin.
Ouais,
c'est...
quand t'es jeune, tu manipules des produits, t'en fais un petit peu de déco, enfin tu vois, c'est amusant, ça t'amuse quoi, donc voilà, c'est ce qui me plaisait, ce côté me plaisait beaucoup, puis il y avait un autre côté qui était moins plaisant, puisque si j'étais apprenti et donc je faisais de la plonge, quand même quoi, batterie, donc je passais 1 heure par service environ, c'était pas très très sympathique,
c'était,
mais bon voilà, ça faisait partie.
Tout.
Ça faisait partie du job, quoi. Donc c'est pour ça que ce métier, je me disais, bon, je savais pas si j'allais réellement le faire, quoi. Donc pendant 10 ans, si tu veux, je l'ai pratiqué avec beaucoup de conscience, hein, mais pas de perspective, quoi. Donc
de 15 à 25.
Ouais, à peu près. Ouais. Quand je suis arrivé sur Paris, j'avais 25 ans. Quand je suis arrivé
t'as
sur Paris.
T'as fait une école?
Ouais, apprentissage, une école privée. Ouais. J'ai eu mes diplômes assez facilement. Après, je me suis baladé. J'étais faire un petit tour à la montagne. J'étais apprenti à skier, quoi. En même temps, j'ai cuisiné, j'ai rencontré des gens vachement bien. Vraiment, mon parcours était complètement atypique, mais j'étais très curieux, quoi. Donc, mais encore une fois, j'avais rien défini dans ma tête. Hein. Je me suis pas dit à ce moment-là, tiens, je vais finir cuisinier, quoi. Donc, les gens que j'ai rencontrés m'ont donné envie de pousser un petit peu plus les portes et progressivement d'autres gens aussi. Enfin, vraiment, c'était ma vie professionnelle a été faite de relations humaines aussi, beaucoup de gens qui m'ont aidé, accompagné. Je dirais comme ça que je suis arrivé à continuer. Et puis à 25 ans, j'ai eu l'opportunité de venir sur Paris. Et donc là, j'ai dit OK. Là, je me suis dit bon, parce qu'on me disait beaucoup que j'avais beaucoup de facilité dans ce métier-là. Et moi, je n'exploitais pas. J'étais un peu à la cool. Et puis à un moment, je me suis dit bon, il faut vraiment que je fasse mon métier. Donc je suis arrivé sur Paris. Puis j'ai commencé à faire les gros établissements. Et j'ai découvert l'univers, du Michelin, du Goemio, enfin des guides dont on parlait avant à ce moment-là, quoi. Donc moi, à 15 ans, quand on me parlait de tout ça,
il n'y avait pas des chefs que tu admirais ?
À ce moment-là, même pas plus que ça. Enfin, il y en avait, mais si tu veux, bon. J'étais dans mon petit univers de cuisine où je cuisinais tous les jours. Ça m'allait bien, quoi. Donc, je ressentais des émotions, des sensations. J'en donnais aussi le peu que je savais, mais il y avait un échange qui s'installait. Donc, j'étais dans un petit univers un peu, après, très local, je dirais. C'était en Touraine. Après, quand j'allais à l'école, je rencontrais d'autres cuisiniers apprentis qui étaient dans des univers différents. Donc, on échangeait beaucoup. Mais, moi, les Bocuse à ce moment-là, bon, certainement, je les connaissais, mais bon, je n'étais pas spécialement. J'étais rêveur peut-être pour d'autres choses à ce moment-là, quoi. Et après, quand je suis arrivé sur Paris, là, j'ai commencé bien sûr à m'intéresser énormément. Et là, commencé à s'ouvrir la porte, je dirais, de la grande cuisine, quoi, je dirais. Et voilà, quoi, donc.
Ça t'a plu ?
Ouais, bien sûr, je me suis accroché. Et oui, il y a eu des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Mais je veux dire, c'est l'histoire de la vie, ça. Il y a des trucs qui nous passionnent et puis d'autres un peu moins. Et justement, sur les choses qui nous passionnent un peu moins, il faut les accepter. Il faut avoir philosophé. Il y a tout un truc à accepter pour pouvoir justement avancer et ne pas en faire des obstacles. Enfin, en faire des obstacles, oui, mais en tout cas, les passer ces obstacles, surtout pas en faire des murs et pousser le mur, essayer de pousser un mur. Voilà. Donc, il faut trouver les moyens d'accéder à ce qui se passe derrière tout le temps. Donc voilà, je crois que c'est notre quotidien fait de ça.
Tu as fait le Doyen, la Serre, Pierre Gagnère, ouais. Le Royal Monceau.
Ouais. Un peu, je suis allé un peu aussi au Bristol, du temps d'El Burgo, quoi. Et après, je suis revenu au Royal Monceau. Et après, le Royal Monceau, en tant que sous-chef, chef. Et après, ils ont fermé. Donc là, je me suis retrouvé. Si tu veux, ils ont fermé. Ils m'ont proposé de rester. Moi, j'avais surtout plus envie de rester. Et en fait, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et voilà, donc, fait de rencontres encore une fois de gens. J'ai ouvert ce restaurant qui s'appelait La Virade.
On va en parler. Tu vas trop vite.
Ah, non, excuse-moi.
Non, je voulais revenir sur toutes ces expériences parisiennes avant la Bigarade. Il y a un chef qui a beaucoup compté pour toi au Royal Monceau.
Ouais, Bruno Cyrano, effectivement. Ouais. C'était un cuisinier, un des cuisiniers, mais surtout un cuisinier passionné, qui était tout le temps là, qui amenait une grosse énergie folle autour du piano, donc qui nous mettait vraiment à fond. Donc moi, si tu veux, à ce moment-là, ça m'allait bien, quoi. La folie m'allait bien et sa folie à lui m'allait très très bien. Et puis il m'a permis de voir d'avoir plein de choses et puis je crois qu'il a révélé des choses au fond de moi, quoi. Et puis sa façon de travailler m'allait très très bien. Je rencontrais une personne qui était j'avais l'impression qu'il était faite pour moi, quoi. En tout cas pour que je puisse me développer du mieux possible, quoi. Ça correspondait à mes valeurs, à mes critères, à ma façon, ma spontanéité, tout ça m'allait vraiment bien, quoi.
C'est le principal chef qui t'a donné qui t'a révélé ce métier,
tous ceux que j'ai rencontrés avant aussi m'ont aidé à arriver à ce chef là quoi. Donc tout ça, c'est des étapes, quoi. Donc je peux pas faire abstraction de ce qui s'est passé avant. Bien sûr, Bruno Cyrano était une personne très très importante, mais justement tout ce que j'ai vécu avant m'a permis d'accéder à Bruno Cyrano, quoi. Tout le parcours est important, donc voilà, quoi.
C'est un food produit, c'est ça?
Ouais. Food produit, food cuisine, votre vie, quoi. Enfin, non, mais plein de choses, mais bien sûr, dans le produit, énormément, très pointu. Puis des assaisonnements très simples, justes. Je le vois là, en train de réaliser des assiettes avec un doigté extrêmement délicat. Une finesse extrême. Voilà, des choses qu'on a envie d'avoir, hein, d'avoir en soi. Ouais, c'est marrant, c'est la façon dont il travaillait. C'était très féminin, quoi. Il y a beaucoup d'élégance, quoi.
Le Royal Monceau, c'est là-bas que tu as eu ta première place de chef. Ouais. Ça t'a fait quoi à l'époque?
Bah écoute, on me l'a proposé, c'est marrant, on me l'a proposé. C'est parce qu'en fait, Bruno Cerino est parti. Il y a un autre chef qui est venu en place qui s'appelait Hervé Galidi et qui est resté. Donc moi, j'étais sous-chef à ce moment-là. Hervé est arrivé. Il est resté 2 ans et demi, 3 ans. Et donc quand il est parti, il m'a proposé en tant que chef. C'est lui qui m'a proposé. Il m'a emmené dans le bureau. Il m'a dit, écoute, Christophe, si tu veux, avant que je la propose à qui que ce soit, il y a cette place à prendre. Tu la connais, elle est pas facile. Mais bon, voilà, pour toi, ça peut être un tournant. Et je lui dis, écoute, on verra ce que ça va donner, quoi. Donc j'ai pris le challenge, quoi. Donc voilà.
T'avais quel âge?
Je sais plus. 30, je sais plus. Moins de 40 ans en tout cas, c'est sûr. Donc,
tu te souviens, c'était stressant, c'était.
Complètement. Mais à l'époque, j'étais totalement stressé, quoi. Donc, je faisais à l'époque, enfin, dans ces environs-là, je faisais 68 kilos, j'avais en tension, je devais avoir plus de 18. Enfin, j'étais complètement. Ouais, je me souviens même de. Enfin, c'était assez amusant, puisqu'on avait la médecine du travail qui venait au Royal Monceau, et en fait, elle me courait tout le temps après, parce qu'en fait, moi, j'allais jamais prendre ma tension, parce que je savais de toute manière qu'elle était bien au-dessus de ce qu'il fallait, et je mangeais pas. Enfin, j'avais une hygiène, pas une bonne hygiène, hein, pas du tout. Mais bon, voilà, c'était. Oui, j'étais stressé totalement. Mais bon, inconscient, insouciant. Puis après, je mettais pas d'enjeu dans tout ça. Moi, j'avais appris la cuisine d'une façon, on me l'avait apprise. Et je me dis, bon, voilà, je vais reproduire ce que j'ai appris. Et puis après, on verra ce qui se passera. Hein. Et à un moment donné, c'est un jeu. Hein. Tout est un jeu. On doit s'amuser avec ça.
Tu as parlé de la bigarade. Ouais. C'était grand écart après la fermeture du Royal Monceau.
Ouais.
Donc tu quittes ta brigade.
Ouais.
Vous étiez une quinzaine,
ouais,
je crois,
ouais,
pour ouvrir un resto dans les Batignolles, ouais, où vous étiez 2 cuisiniers. Ouais. Tout petit restaurant, ouais, cuisine ouverte, hyper intimiste. C'était, ouais, hyper audacieux. Enfin, je me souviens des.
Ouais, mais tu sais, encore une fois, moi j'ai suivi un peu mon instinct, j'ai suivi ce que la vie me proposait. Enfin, j'ai fait confiance en tout ça aussi. Et moi j'ai toujours d'abord appris dans différents lieux de cuisine, hein, bien évidemment les grands établissements, mais aussi les petits que quand j'ai démarré vraiment dans les. Donc. D'abord, quand j'ai ouvert la bigarade, d'abord, je disais surtout pas en parler. Je voulais pas mettre d'enseigne, je voulais pas mettre restaurant devant, je voulais rien. Je disais à mes associés, hop, on va tester un truc, on va voir ce que ça va donner, et puis on verra ce que l'avenir nous dira, ce qui va se passer, quoi. Donc, puis voilà, progressivement, ça. J'avais d'abord des associés qui étaient quand même hyper bienveillants, qui connaissaient beaucoup de monde, donc on fait un peu le buzz au départ dans le quartier. Donc après le quartier, ça s'est développé, puis voilà, puis après ça a donné ce que ça a donné.
Mais
c'est vrai qu'au début. D'abord, quand j'ai quitté le Royal Monceau, je savais pas du tout ce que j'allais faire, quoi. Donc vraiment pas.
Tu m'avais raconté justement il y a 10 ans que c'était l'histoire, c'était une histoire de rencontre, la, ouais, bigarade. Ouais. C'était
encore
pas
une.
Prémédité, mais que c'était les rencontres qui avaient fait que c'était fait à ce moment-là avec ces gens-là et,
ouais,
ce restaurant-là.
Ouais, surtout une personne, quoi. Donc j'allais. En fait, il avait un il s'appelait Laurent. Il avait une cave à vin dans les Batignolles, et moi le samedi je bossais pas, donc samedi matin, enfin matinée, bing, j'allais dans les Batignolles, j'allais dans cette cave, et puis avec Laurent on parlait un peu de choses et d'autres, de la cuisine mais aussi du vin, mais bien d'autres choses, quoi. Donc parce qu'on avait des atomes crochus sur d'autres sujets, quoi. Donc voilà, et puis Laurent savait que j'étais au Royal Monceau à l'époque, et donc venait avec des potes en famille au Royal Monceau, donc il aimait ce qu'on faisait, et un jour il me dit, écoute Christophe, si tu veux, j'ai un peu d'argent, si tu veux, j'investis dans une aventure avec toi. Et moi, quand il m'a proposé ça, je dis, écoute, Laurent, t'es gentil, t'es super adorable, mais je ferai jamais rien avec toi, quoi. Donc voilà. Et quand j'ai quitté le Royal Monceau, j'étais le revoir, et je lui ai dit, bon, écoute, Laurent, peut-être que finalement, peut-être en parler, quoi. Donc voilà, il a construit, il a rencontré une autre troisième personne, ça a fait le troisième associé, et puis il a fait une petite proposition. En fait, je me souviens, on était dans un restaurant dans les Batignolles et on rencontre ce troisième associé qui était un client de Laurent et donc Laurent savait qu'il avait un petit restaurant qu'on lui avait donné pas longtemps avant, mais donné quoi. Et cet associé qui s'appelait Bruno dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi, j'aimerais bien ouvrir une petite table, 20 places, un truc assez intimiste, un petit endroit cool. Il me dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Et on s'est levé de table et on était voir cet endroit qui était mais pouilleux, quoi, absolument pouilleux, avec un billard au milieu de la pièce. Enfin, vraiment, tout était dégueulasse là-dedans. Et en fait, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc comme ça, quoi, avec un objet comme celui-ci, quoi. Il y avait 70 mètres carrés, vraiment, ou 75 ou 80, mais vraiment pas beaucoup. Bon, et puis, bon, moi, j'ai dit, ok, j'étais vraiment pessimiste à fond, quoi. Puis je dis, bon, allez, on y va, quoi, on va voir. Hein. Et puis on a mis un archi là-dedans, et puis ils ont super bien bossé, et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça.
C'est un peu la bigarade.
Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment une rencontre de gens, de choses, puis à un moment donné, de se laisser aller, même si tu sens pas toujours le truc, tu fais confiance pas qu'à toi, mais aux gens, à la vie, et puis voilà, et puis après.
C'était le moment, est-ce que c'était aussi un moment où tu avais besoin de raconter ta propre histoire
ou... finalement. Mais je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit, tiens, moi, je dois raconter des choses. À moi de prendre un outil.
Tu t'es pas dit.
Non. Je devais continuer à cuisiner, ça, c'est sûr. Mais j'étais pas dans l'idée de me dire, attends, je vais raconter des choses au monde entier. Pas du tout.
T'avais pas une envie de liberté aussi
Mais ça a toujours été, moi, ça. Et encore aujourd'hui, je veux dire, on aime être libre. Après, aujourd'hui, bon, j'ai un âge où la liberté, je la comprends mieux. Mais à ce moment-là, oui, j'ai toujours eu envie de cette liberté. Donc, oui, c'était un passage. Mais liberté. Il fallait la chercher, quoi. Enfin, pas toujours facile non plus, quoi. Donc voilà, quoi.
Bon, ça a été une véritable success story. T'as eu une étoile, deux étoiles. Il fallait trois mois de réservation, trois mois d'attente pour avoir une table.
Ouais.
Et puis, t'as fermé.
ouais, parce que en fait, ça faisait pas loin de 6 ans qu'on était ouvert, et si tu veux, cette bécane, on l'avait poussée à 200%. Elle était à son maxi, quoi. Donc tu sentais que les murs, ils étaient prêts à exploser. Donc qu'est-ce que tu veux apporter de plus quand le mur est prêt à éclater, hein? Donc pas grand-chose. Donc de continuer, continuer l'histoire. Là, commencer à faire de l'argent potentiellement, mais c'est pas du tout mon.
T'allais t'emmerder.
Mon trip. Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Ouais. Puis j'étais un peu fatigué, j'avais envie de d'autres choses aussi, enfin voilà, tu sais, il y a un moment donné, il faut faire attention à nos envies profondes aussi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'aime ce métier parce que voilà, et il te permet de faire plein de choses, mais à un moment donné, il faut se recentrer, quoi. Donc j'avais peut-être besoin à ce moment-là de me recentrer, et voilà, donc j'ai lâché, et ça m'a fait beaucoup de bien. Quand j'ai arrêté la bigarade, on m'a refait 2-3 propositions. Mais que j'ai totalement balayé, quoi. J'ai dit, lâchez-moi, quoi. Ce métier, je veux l'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, j'ai plus du tout envie de parler de ça, quoi. J'avais envie de prendre un peu de temps, de me reconstruire physiquement, mentalement aussi, de me renourrir aussi, en famille aussi. Donc, voilà.
Donc, t'as pris du temps.
Ouais, mais je le regrette pas du tout. Il y a même des gens, quand j'ai rouvert ici, qui me disaient, mais Christophe, de toute manière, ça y est, t'as arrêté 3 ans, c'est fini pour toi, quoi. Je disais, bah, écoute, ouais, sûrement, possible, mais je m'en foutais, moi. C'est pas grave, au moins, je sais cuisiner. Enfin, donc, c'est pas grave, peu importe, mais c'était pas très, très grave, mais je l'entendais, en tout cas. En plus, j'avais pas totalement décroché, puisque je verrais comme une affaire à Hong Kong entre temps. Donc, j'ai été me nourrir un peu différemment, mais bon, pas de problème, quoi.
Oui, tu avais besoin de prendre le temps de vivre à ton rythme et d'aller voir d'autres choses. Enfin,
moi, encore une fois, aujourd'hui, encore plus, la vie, c'est quoi? C'est demain, on n'existe plus. Donc, il y a des moments où on doit penser peut-être différemment. On ne peut pas donner toujours à fond dans nos métiers. Je veux dire, moi, j'adore ce métier-là, vraiment. Hein. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille dans ce métier-là. Mais il y a des moments où je pense à moi plus égoïstement, quoi. Donc penser à soi plus égoïstement, eh ben, moi, je dois décrocher, quoi. Donc, ce n'est pas en restant dans un endroit, décrocher en restant dans l'endroit. Moi, ce n'est pas du tout ma conception, je préfère totalement décrocher et puis faire autre chose, quoi.
Oui, tu disais aussi de te nourrir, ça nourrit aussi ton inspiration, ta cuisine, tout ça, d'aller voir...
Puis de redonner aux gens ce qui revient, cette nourriture que moi je prends, c'est pour la redistribuer à un moment donné, quoi. Nos métiers sont faits de ça, on donne en permanence, quoi. C'est des métiers qui sont extrêmement difficiles. Moi, je vois le samedi soir, je suis mais KO parce qu'on donne beaucoup, quoi. Donc ça c'est nos métiers, et à un moment donné, quand il n'y a plus rien à donner, peut-être qu'on se met en danger aussi, quoi. Donc ça vaut pas la maladie, ça vaut pas tout ça, quoi. On doit être en forme tout le temps, quoi. Donc il faut faire attention à soi.
Mais c'est quelque chose qui revient aussi, même beaucoup chez les jeunes cuisiniers, d'avoir de prendre du temps, même d'essayer d'avoir un peu plus de temps dans la semaine pour trouver l'inspiration, de l'énergie, donner tout ça.
Ouais. Bon, enfin, après, là, chacun a différemment nos façons de faire, mais moi, je vois, c'est le dimanche. Moi, je suis le dimanche, je suis en mode, j'ai l'impression de me rebrancher sur la prise et en mode, je fais pas grand chose le dimanche, quoi. Même si je fais des choses, j'ai pas l'impression de faire grand chose, quoi. Donc, j'ai l'impression de me recharger, quoi. Et j'en ai besoin. Si un dimanche, je me recharge pas, putain, dans la semaine, je le prends plein fouet, quoi. Non, c'est des métiers où il faut se reposer. C'est hyper important. Il faut être hyper discipliné, je crois, hein. Parce que c'est des métiers qui sont extrêmement durs, quoi. Mais pas que nos métiers, je dis nos métiers parce que voilà, et pas que nos métiers.
Bon, puis grand écart, tu reviens sur la scène gastronomique parisienne, au Clarence, où nous sommes, dans cet hôtel particulier du 8e qui est à la décoration hyper classique, cossu, hyper style français,
ouais.
Qui contraste avec la bigarade.
Ouais.
Ça s'est passé comment ton arrivée ici?
Cet univers-là, je l'avais connu quand même, Royal Monceau. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais l'univers un peu de classicisme, palacien, mais on n'est pas dans un palace ici, bien évidemment, mais un peu cet univers un petit peu. Enfin, pas semblé que j'étais indifférent à ça. Enfin, je l'avais vécu en tout cas, donc j'avais pas trop de problèmes avec ça. Bon, après, c'était de savoir, justement, à ce moment-là, de qu'est-ce qu'on allait proposer, c'est surtout ça, en fait. Dire, quand on voyait cet univers-là, on se dit, mince, qu'est-ce que je pourrais faire ici comme cuisine. Et finalement, progressivement, on a pris nos marques, et puis on a, je pense qu'on a trouvé un joli compromis dans un lieu, justement, classique. Cuisine qui est très actuelle, donc ça a l'air de fonctionner pas trop mal, donc c'est parfait, quoi.
Alors le challenge, c'est de faire à la fois une cuisine, j'ai lu que tu disais qu'il fallait faire une cuisine connectée au cadre et en même temps d'avoir ce décalage qui est intéressant, enfin,
ouais.
Avec les lieux,
ouais.
C'est juste sur le fil du rasoir.
C'est s'approprier le lieu, je crois, hein, et puis de faire bien sûr une cuisine en connexion, mais je suis pas en permanence en train de me dire attends, il faut que je fasse ce plat en connexion de ce tableau, pas du tout. Je veux dire, on vit dans un univers ici qui nous apporte énormément de choses, donc si tu veux en cuisine, tu enfin toutes ces énergies, toutes ces émotions, tu les ressens, tu les amènes en cuisine et tu les vis, quoi. Donc après il sort des choses qui peuvent être en relation, certainement, quoi, mais c'est pas étudié intellectuellement, oui. Pas du tout, hein, vraiment pas, hein, donc mais en tout cas enfin, le retour qu'on a, c'est que les gens, ils se sentent très très bien ici. La cuisine a l'air de fonctionner pas mal, le service aussi. Parce qu'on parle de la cuisine, on parle pas du service, mais le service, c'est aussi un service très actuel, fluide, léger. Donc ça allait de matcher, quoi. Donc les gens, et ça crée justement un univers, quoi. C'est ce qui est fabuleux, quoi. Donc voilà.
Avec des bases tout de même. Un petit peu, enfin, classique, en fait.
On n'a pas peur de mots, bien sûr. Mais on est issu du classique. Oui. Enfin, le classique, c'est notre formation. Je crois qu'on est fondé là-dessus. Enfin, on est, voilà. Donc ça, il faut jamais l'oublier. C'est nos racines. C'est, moi, je prends toujours l'exemple du musicien, le guitariste qui va faire son solfège. Les meilleurs guitaristes du monde, ils font encore leur solfège aujourd'hui. Et ça, c'est des bases classiques. Et en cuisine, on doit avoir nos bases qui sont fondamentales. Puisque si vous allez faire de la musique aujourd'hui juste à l'oreille, ça va durer 2 ans. Au bout de 2 ans, vous êtes en saturation. Donc, le classique vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, forcément, fondamental, quoi.
Est-ce que la cuisine ouverte te manque ?
Pas vraiment. Surprise, hein.
Non, je sais pas.
Non. C'était un très, très bon... une très belle étape, mais non, pas du tout. Le cuisinier a besoin d'intimité, quoi. Donc, il a besoin de se retrouver entre nous. On a besoin de se retrouver entre nous, en tout cas. Donc, non, pas du tout.
Est-ce que tu as l'impression de faire une cuisine moins instinctive et plus réfléchie ici ou pas ?
Non. Si tu veux, je... Non. Peut-être elle est un petit peu plus mûre, puisque bon, il y a les
années... T'as pris de l'âge.
Ouais, c'est ça. Non, mais je dirais ça, hein, Mais moins instinctive, je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais non. On a toujours la part de, tu vois, de spontanéité qui reste bien présente. Cette idée qu'on peut faire mûrir assez rapidement. Enfin, après, peut-être qu'on va moins vite, hein. Peut-être, j'ai pas l'impression. Mais bon, ouais, plus mûr, on va dire.
C'est une tradition dans ce podcast. On fait une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Il faut répondre du tac au tac. Bon, c'est des questions très faciles. Ton âge ?
49 ans.
Ton signe astrologique ?
Bélier.
Ton plat signature ?
J'en ai pas.
Ton plat préféré ?
La mousse au chocolat, je dirais. J'en ai d'autres, mais la mousse au chocolat, c'est pas mal.
Le chef que tu admires le plus ? aujourd'hui?
C'est dur, hein. Par mon passé, Bruno Cirino.
Ton ingrédient préféré?
C'est dur, mais bon, je sais pas, elle est une bonne salade.
Et ton ingrédient détesté?
Ah, bah si, non, pas détesté, mais ce que j'ai encore du mal à manger, c'est le foie. Le foie de veau, quoi, donc c'est un truc, j'ai un peu de mal.
Ton ustensile fétiche?
Bon, un couteau, enfin en cuisine, ouais.
Ton dernier meilleur repas?
Ah, dernier meilleur repas? Je pense que je l'ai fait dans un bistrot, pas loin d'ici, quoi.
Le resto que tu aurais aimé ouvrir?
Bah, le Clarence.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Qu'on ait pleuré devant moi, devant un plat, c'est quand même assez magique, quoi. Donc c'est vraiment, c'est émouvant, quoi. Enfin, c'est très émouvant. Donc, si tu veux, moi, je craque. Donc, voilà.
Et la pire critique?
Critique, c'est qu'on remet tout en question. Enfin, les gens qui te disent, ouais, j'aurais mis ça à la place. Enfin, voilà, il y a des façons de le faire et de le dire. Voilà, il y a des gens qui se la racontent un petit peu. Et ça, c'est assez insupportable.
On va reprendre le rythme normal. Okay. Tu as décidé de mener une réflexion sur la place du client et le plaisir à table parce que tu avais l'impression qu'on l'avait un peu perdu, ça ou...
Ouais. Alors, je sais pas si j'avais cette impression-là, mais ce que j'aime, moi, c'est le cuisinier qui fait réellement manger avec, enfin, pour le client et pas pour lui. Enfin, je sais pas si tu vois un peu, c'est important. Je crois qu'il faut jamais oublier que, en fait, notre rôle avant tout, c'est de faire manger aux gens, quoi. Et c'est vrai que des fois, on y met, je dirais, une part artistique, c'est-à-dire un petit peu personnel. Bon, ça peut fonctionner, mais si ça l'est trop, on a l'impression que le cuisinier, il fait ça pour lui, quoi. Vraiment, il s'épate lui-même, quoi. Et à un moment donné, je pense que c'est pas soi qu'on doit épater, c'est quand même les gens. Non, mais il faut pas jamais oublier cette relation. C'est fondamental. C'est nos métiers, quoi. Nous, on a appris la cuisine. Pas pour nous, mais pour faire à manger à des gens, quoi. Donc voilà. Donc et puis en salle aussi, je me disais que avoir un service qui soit approprié, encore une fois distant, élégant, mais dans le service aussi toujours, quoi. Donc voilà. J'avais envie de peut-être de pousser ça un petit peu. Je sais pas si je le pousse. En tout cas, on a des jolis retours. Et je pense que notre métier, on doit être extrêmement élégant, quoi. Ça, quand on est au contact des gens, on doit vraiment aller leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc ça doit être du ressenti. On doit vraiment ressentir ce qu'ils ont besoin, mais jamais les envahir, jamais enfin voilà, envahir, c'est ça, c'est le mot, quoi. Et donc ça, c'est d'une finesse et d'une élégance rare, quoi.
J'allais dire, c'est difficile parce que chaque personne n'a pas les mêmes besoins. Difficile. Enfin, chaque client n'attend pas la même
ça.
Chose.
Mais c'est ça. Mais le métier de service, c'est aussi ça. On doit. Alors il y a des codes, bien évidemment, qu'on doit apprendre, mais derrière les codes, on doit ressentir ce que le client il veut, quoi. Et chaque client est totalement différent, que ce soit, je dirais, dans la sommellerie comme dans le service et comme dans la cuisine, quoi. Parce qu'un client, il y a une table qui va vouloir manger ces choses-là et puis notre table va vouloir manger différemment et nous on doit être à l'écoute, enfin l'homme de salle doit être à l'écoute de ça, nous renvoyer l'information et nous on doit être dans cette interaction-là, quoi, qui est très très importante, quoi.
Donc, et c'est passé aussi par plus de plats à la carte, ou une plus grande carte,
ouais,
le fait de
nous,
faire...
Pas de carte du tout, quoi. Tu vois, donc au début, j'avais dit, tiens, on mettra de la carte. Et puis, je suis vite revenu là-dessus parce que, en fait, la carte, c'est compliqué, quoi. Donc, ça oblige à acheter pas mal de matières premières. Potentiellement, si on les vend pas, on les dans les frigos. Et si on les vend pas, et qu'elles sont dans les frigos, à un moment donné, il faut les pousser, malgré nous. Donc, moi, j'ai dit stop à la carte. Par contre, on va faire des menus. Et dans ces menus, on va proposer aux gens voilà ce qu'il y a aujourd'hui et s'ils n'aiment pas ce qu'il y a aujourd'hui, il y aura toujours des possibilités de pouvoir changer, quoi. L'idée, c'est de chaque soir les frigos soient vides, quoi. Non seulement ça, et quand on travaille de la viande, moi j'aime bien faire rassir et emmener au bout un aliment, que ce soit un canard, un pigeon, une côte de bœuf, enfin quoi que ce soit, ou un gibier, et quand il est vraiment à point, là, le proposer, et voilà. Donc, et quand on a une carte, on peut pas toujours proposer le meilleur, en tout cas. Donc, à un moment donné, on est obligé de, puisque c'est à la carte, on peut pas refuser, donc on est obligé de proposer, même si le plat, enfin, pas l'aliment n'est pas
prêt.
Voilà. Donc, on doit y aller. Ouais. Donc, voilà. Et donc, je suis vite revenu là-dessus, et au début, ça a été un petit peu difficile, et aujourd'hui, je crois qu'ils acceptent pas trop mal l'idée, quoi.
Et tu as aussi, ça passe aussi par le service où il y a des gestes en salle, des coupes, des choses comme ça.
Ouais, des coupes, ouais, il y a des découpes, ouais, quelques découpes. L'attention, moi je suis toujours sur l'attention, bien évidemment, et bien sûr un petit peu de découpe. Ouais, un petit peu de découpe, c'est très important, c'est des gestes de salle qui existent depuis toujours, quoi. Donc on essaye, on en fait, pas tous les jours, mais on en fait. Et J'espère, on a acheté des réchauds, là. J'ai envie de faire flamber en ça. J'ai envie que ça, tu vois, ouais. Je trouve ça vachement sympa. Même quand t'es assis et que quelqu'un s'occupe de toi à côté sur un plat, enfin, je trouve ça fabuleux. Alors, je suis pas obligé de cuisiner. Je pense que ça peut être l'homme de salle qui fasse des définitions, un petit flambage. Voilà, en ce moment, on fait un petit homard qu'on flambe avec du whisky, tu vois. Donc voilà, et après, tu le coupes, tu mets dans l'assiette. Enfin, je trouve que tu vois, t'es à côté, t'es entouré de gens, voilà, et tu passes un bon moment, et à côté de toi, on s'occupe de vraiment. Là, t'as cette sensation qu'on s'occupe réellement de toi, et ça, je trouve que c'est des sensations qui sont quand même assez fabuleuses, quoi.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ?
Je trouve que c'est. Je parle le côté festif, ce que tu disais tout à l'heure, ça pour moi c'est très représentatif avec la cuisine. Et puis je crois que enfin il y a de l'échange, de l'amour, du partage, enfin tu vois, tout ça c'est je trouve que la table et la cuisine c'est un lieu qui est enfin pour nous d'abord de culture, on est très 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 attaché à la table et je trouve qu'on voilà, on y passe des moments fabuleux quoi. Donc ouais.
Qu'est-ce qui guide ta façon de tes envies quand t'es dans ta cuisine,
qu'est-ce qui me guide ? Je sais pas, l'envie peut-être de faire plaisir. Je suis alimenté par des choses et je dois les je dois les partager de toute manière. Sinon, je crois que sinon j'étouffe ou je meurs quoi.
Tu débordes.
Je sais pas, mais certainement quand même un peu. Ouais.
Est-ce que ça a été évident de trouver ton style culinaire ?
Ça met du temps hein, de toute manière hein. C'est vrai que c'est long mais c'est fait comme tout, il faut travailler, il faut chercher, il faut peut-être des fois copier, s'inspirer, puis à un moment se détacher et oser s'exprimer et puis au début c'est pas très vraiment c'est ce qu'on est et puis progressivement on affine dès qu'on a commencé à trouver la trame je pense qu'il faut vraiment y aller quoi mais non ça met du temps ouais,
quand est-ce que tu l'as trouvé toi enfin tu sais pas jamais, tu te souviens
je dirais,
un peu
non je dirais jamais non mais
tu cherches encore
ouais mais moins bien sûr mais voilà il faut quand est-ce que je l'ai trouvé, je sais pas. C'est progressif, tu sais, ça met du temps. T'as des étapes dans ça, quoi. Tu vois, forcément, quand tu prends ta première place, il y a quand même de l'expression, même si tu travailles sur ce que tu as appris, donc tout ne t'appartient pas. Et puis voilà, mais tu commences à mettre des choses à toi progressivement. Et puis après, voilà, la deuxième expérience, c'en est une autre. Donc tu lâches un peu plus que ce que tu as vécu au début. Et puis tu te réappropries un lieu. C'est pour ça que c'est bien aussi de changer aussi pour ces raisons-là, quoi. Et dans ce lieu, tu vas rencontrer d'autres gens différents, d'autres énergies qui vont t'amener sur d'autres univers. Donc faut pas avoir peur aussi de lâcher. Hein. C'est aussi important, quoi, pour justement s'alléger pour redécouvrir d'autres horizons et finalement qui te construisent. Tu vois,
c'est le marché et les produits qui te portent.
Ouais, les gens
beaucoup,
aussi.
Les gens.
Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, le marché des produits, mais les gens qui sont à la tête de ça, c'est quand même les gens qui font. Enfin, après, il y a la terre, bien évidemment, mais les gens qui vont pêcher, qui vont cultiver, enfin voilà, qui vont ramasser, enfin voilà, tous ces gens-là, enfin, cette façon de travailler, cette dynamique qu'ils ont, ce respect qu'ils peuvent avoir aussi, ces valeurs, enfin, hein, tout ça me de plus en plus me touche et me plaise, quoi.
Souvent, je demande aux chefs s'ils cuisinent avec leur cœur ou leur tête. Toi, j'ai lu que c'est avec tes tripes.
ouais, dans ma tête. Je trouve que souvent, c'est encombrant, en fait. L'intellect est encombrant, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est justement c'est arriver à le mettre de côté, bien de côté, et voilà, laisser venir ce qu'il y a au fond, quoi. Et un peu de cœur, quoi, quand même, quoi. C'est pas mal, quoi.
Est-ce que tu crées facilement ? Tu es devant ta page blanche, ton assiette.
Ça peut arriver, que y a des moments où on n'est pas du tout inspiré, puis d'autres moments où on l'est. Donc qu'est-ce qui déclenche ça ? Souvent l'émotion, quoi. Donc voilà, c'est souvent les gens qui vous déclenchent ça en fait, quoi. Vraiment l'envie de faire des choses, d'en faire d'autres, de nouvelles, de pousser un peu plus.
Quand tu dis les gens, c'est les producteurs ou
ouais,
c'est d'autres choses ?
Mais c'est aussi les clients. Tu vois, l'énergie que tu vas ressentir aux tables, tu vois, la façon dont ils viennent, qu'est-ce qu'ils attendent. Enfin, tu vois, tout ça, toutes ces informations. C'est pour ça que c'est très difficile. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu étais à la Bigarade, c'était beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on était en direct, tu avais l'émotion que tu prenais pleine face, quoi. Alors, pas toujours facile, parce que des fois, elle était hyper violente. Et, mais malgré tout, tu avais de l'information, et là, c'était en direct. Et là, forcément, il y a un couloir, il y a des hommes qui sont devant, qui font leur métier, et qui vous rapportent de l'information. Mais de la table à la cuisine, il y a quand même un certain temps. Et souvent, cette information, ou cette émotion, eh bien, potentiellement, tu sais, en marchant, on en perd. Donc, c'est ça qui est des fois compliqué, le fait d'être à distance, quoi. Mais c'est pour ça que moi, souvent, je vais pas en salle, mais aux abords des salles, regarder un petit peu, m'informer un peu, renifler un peu. Des fois, je vais dedans aussi. Parce que c'est important d'aller.
Et sentir.
Ouais. Alors, des fois, voilà, t'es très inspiré, puis des fois, tu l'es un peu moins. Puis des fois, tu fais n'importe quoi, et puis des fois, tu fais des choses. Tu vois, mais c'est normal, c'est l'expression. L'expression, c'est pas toujours 100%, tu vois. Je crois que c'est Cyrano qui me disait ça, que Maximin disait à l'époque, sur 100 plats, il y en a un à retenir, les 99, il faut les mettre à la poubelle. Donc, retenons ça, et voilà, et osons s'exprimer.
Et ta propre émotion, elle joue dans ta façon de cuisiner?
Bon, je pense,
ou ouais. T'es un cuisinier un peu mécanique, non?
Tu me vois mécanique?
Non.
Voilà, donc... Non, mais c'est très important, justement. C'est très important. C'est pour ça que j'essaye aussi d'entretenir cette joie de vivre. Tu vois, cette envie, en tout cas, de vivre et de faire, et parce que je trouve que cette énergie-là, elle est bonne pour moi, elle est bonne pour les gens qui sont autour, et finalement bonne pour les clients, quoi. Donc,
mais avec ses forces et ses faiblesses, parce que des fois, je sais pas si t'as des jours de mauvaise humeur.
Ouais, mais ça, c'est justement, il faudrait éviter d'avoir ces jours. Justement, il faut se reposer, malgré le travail intense, il faut arriver à se reposer. Enfin, il faut trouver des plages où vraiment tu fais attention à toi, tu fais gaffe, quoi. Donc, pour que justement tu gardes cette joie et de bonne humeur, quoi. Donc, mais il y a des moments où c'est un peu difficile parce que on est poussé, quoi. Mmh. Donc, et c'est vrai qu'arrive les fins de saison, là, fin décembre, et c'est normal, ça pète un peu dans tous les sens. Donc, il faut, toi, être encore plus solide et pouvoir les accompagner du mieux possible pour garder cette tranquillité d'esprit, je dirais, quoi. Mais voilà, donc.
Est-ce que tu t'es déjà interdit des choses en cuisine? Ou tu t'interdis de faire certaines choses?
Non, j'ai pas l'impression.
Non. Non. Pas des produits, des...
Non. Non, vraiment pas, ça serait d'abord... de dire ça serait hyper prétentieux. Non, pas du tout. Non, je crois que d'abord on est très très libre, et puis après non, il y a des choses que j'ai pas envie de travailler, alors j'ai pas rien en tête là, parce que je trouve que ça n'a pas lieu, mais c'est pas de l'interdiction pour moi, c'est, voilà, c'est que c'est pas le sujet ou mal placé, quoi. Donc en interdiction, je dirais ici j'en ai pas beaucoup, hein. Non, j'ai cette chance là, hein, vraiment.
Est-ce que le fait de faire à manger dans une cuisine, dans une maison qui n'est pas la tienne, comme à la Bigarade, ça influe?
Non, je crois que c'est un état d'esprit, en fait. Tu sais, quand tu es... comment dirais-je, on est bien au-delà de l'intérêt, tu vois, d'être propriétaire, actionnaire, chef, il y a autre chose, quoi. C'est simplement un cuisinier qui a envie de bien faire, et dans ça, tu utilises voilà, tout ce que tu as en ta possession. Je ne vais pas être en restriction aujourd'hui, en train de me dire, bon, attends, là, c'est pas chez moi, je vais pas faire ci ou pas faire ça. Non, mais tu vois, ça serait totalement débile. Enfin, c'est pas, en tout cas, ma façon de ma conception. Alors, je dirais que, je ne sais pas si j'ai plus de temps qu'à la Virade. En tout cas, je fais des activités aujourd'hui que je ne faisais pas à la Villarade, par exemple, hors cuisine. Tu vois, pas beaucoup, mais un petit peu. Tu vois. Là-bas, j'en faisais pas du tout. Parce que, là-bas, on n'était que deux. Voilà. Peut-être que j'ai un peu plus de temps. Mais je ne suis pas sûr en même temps. Pff, non.
Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ton métier?
De cuisiner, quoi.
Non, est-ce que c'est chasser des produits?
Ouais, chasser les produits, oui, mais de cuisiner, oui.
Derrière les fourneaux.
Ouais, d'être, je pense que d'être inspiré, ça m'amuse beaucoup, quoi. Quand on est inspiré, en fait, on est totalement absorbé, on est comme, comment dirais-je, hypnotisé par quelque chose, et en fait, on est, voilà, ça peut être un univers qui peut être assez fabuleux, quoi. Donc, ouais, être inspiré, ça m'amuse beaucoup, quoi.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Waouh, chef. Tout bêtement, ça va être quand je suis au Rémanceau, mais j'ai eu d'autres moments. C'est chef, c'est une étape, hein, je veux dire, tu sais, c'est après, c'est des responsabilités, c'est une conscience, plein de choses, quoi. Chef, tu sais, ça peut tout et pas dire grand chose, quoi. Donc, non, je pense que c'est d'être d'être responsable, en tout cas, de soi, déjà, c'est pas mal. Et voilà, quoi. Donc,
Et tu te présentes comment aux gens qui te connaissent pas?
Cuisinier, tiens.
Cuisinier.
Ouais, souvent. Ouais, c'est un mot que je trouve. Et alors qu'on est chef cuisinier, hein, mais c'est un mot que voilà, moi je lui dis tiens, je suis cuisinier. Quoi. Mais c'est marrant. Voilà, je fais un sport et là-bas, ils savaient pas du tout. Et quand ils me disent tu fais quoi, ben, je suis cuisinier. Ok, donc ils vont souvent pas plus loin. Puis à un moment donné, ils se renseignent par le biais de machin. Ils me disent mais attends, t'es cuisinier. Non, t'es pas cuisinier. T'es comme chef dans un 2 étoiles quoi. Et je dis ouais, ouais, d'accord, ok. Mais c'est vrai que moi, je suis cuisinier quoi. Ben, c'est vrai, avant tout, on est des cuisiniers quoi.
T'as employé le terme plusieurs fois avant même.
De quoi, de cuisinier?
Ouais.
Ouais, 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 ouais.
Donc c'est.
Bah c'est ouais, ouais.
C'est alors ce qui ressort.
Est-ce que chef c'est un grade? Est-ce que c'est un statut? Tu vois, cuisinier c'est un métier. Enfin voilà. Oui. Donc dans le métier t'as des statuts effectivement de chef quoi. Parce que sinon je pourrais t'en dire d'autres parce que j'en ai d'autres statuts aussi. Non mais tu vois donc ça peut aussi aller.
Oui oui non mais c'est celui qui est plus important pour toi finalement. Quelle genre de chef es-tu? De chef dans ta cuisine tu vois? Est-ce que t'es sympa? Tu mets des petits coups de pied aux fesses et. Comment
ouais, ça peut m'arriver. Non, mais.
Tu gueules
bah, ouais, non, mais. Alors, exigeant, oui. Après, il faut demander aux autres. Hein, tu sais, je pense que c'est eux qui seront le plus à même de répondre à cette question. Mais là, comme ça. Ouais.
Exigeant.
Ouais, exigeant, ouais. Stimulant, je dirais. Deux fois, ça peut lever un petit peu, mais ouais, en tout cas, j'espère motivant, en tout cas, et leur donner envie, en tout cas, d'avoir des ce métier, tu vois, leur mettre tous les côtés, je dirais, les belles, les jolis côtés, et bien sûr les moins jolis, mais les jolis côtés, les pousser, leur montrer que, bah, voilà, c'est ça aussi la cuisine, quoi, et puis, voilà, d'être avec eux, j'ai l'impression d'être avec eux, en tout cas, ouais, pas de les porter, parce que c'est pas vrai, parce que c'est eux qui me portent souvent, quoi. Donc, mais en tout cas, de les accompagner bien, bien comme il faut, quoi. Et voilà, faire partie pleinement de la brigade et pas être différent, voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut un moteur, et peut-être que des fois, de temps en temps, voilà, j'utilise ça pour peut-être monter un petit peu plus. Donc, voilà. En tout cas, chacun est très, très important, quoi. Le chef seul, il est rien, donc j'ai besoin de tout le monde. Et ça, je crois que je leur fais prendre conscience aussi, quoi. C'est important, quoi.
Tu ressens le besoin de cuisiner tous les jours, vraiment de physique, tu vois?
Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais, parce que quand je suis en vacances, je cuisine pas mal, ouais. Mais c'est des choses très basiques, hein. Mais j'aime aller faire mon marché, j'aime aller papoter, j'aime rentrer, j'aime bien manger, j'aime, tu vois. Et puis de temps en temps, je le fais faire, et puis d'autres fois, c'est moi qui le fais parce que j'ai envie de le pousser un peu, tu vois. Donc ouais, j'aime ça, ouais. J'aime bien manger, ouais. Même pour moi, j'aime bien manger, quoi. Je le fais pas souvent, puisque la semaine, j'ai quasiment pas le temps. Donc, c'est vrai que quand je m'y mets, ouais, j'aime bien manger. Je trouve que c'est un endroit qui est assez fabuleux. Tu peux passer 10 heures à table sans aucun problème, quoi. Si t'es avec des gens sympas, tu fais le déjeuner. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu fais le déjeuner, et hop, l'après-midi, et hop, là, tu enchaînes le soir à l'apéro, et puis hop, là, tu remets des choses sur la table, et puis tu finis les 3 heures du matin. T'as passé de minuit à 3 heures du matin à table, et je trouve ça. Enfin bon, ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais.
Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui?
Le temps, peut-être.
Bon, c'est la fin et on commence à avoir faim. Il est bientôt midi, je pense. Est-ce que tu as une recette que tu fais à la maison à nous donner? Pas une recette de chef 2 étoiles du Clarence.
À la maison?
Ouais.
Bon, alors je vais vous dire la dernière que j'ai faite, hein, que je me suis fait beaucoup aider hein, quand même hein, par ma femme. Mais c'était une potée avec des cailles. En fait, souvent une potée, on met du cochon dedans. Et en fait, là, on a fait une potée avec des cailles et c'était magique. Et c'est hyper simple à faire, quoi. Donc c'est le chou, hein, du chou, de la pomme de terre et des carottes. Et en fait, que tu blanchis ton chou, bien blanchi. Et après, tu les mets dans un plat, même dans une tagine, quoi. Et tu mets tes carottes, un petit bouillon garni bien sûr, une pomme de terre bien sûr. Tu fais cuire ça une quinzaine de minutes. Après, tu le sors, tu mets tes cailles et tu remets ça une vingtaine de minutes. Et tu sors ton plat, il est prêt, quoi.
Tu mets du vin, tu mets des aromates,
de
des
vin.
Choses.
Non, rien. Bouillon garni. Ouais. Un peu de baie de Genève si tu veux, un clou de girofle si tu as envie, pas trop, hein. Toi, faut vraiment rester sur la saveur du chou, sur le fondant du chou et cette caille qui est extrêmement fine et délicate, quoi.
Et tu la mets entière dedans?
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, tu la mets entière. Et après, tu la manges, bien sûr, avec les doigts, ouais. Bien évidemment, hein. Et tu mets un petit condiment quand tu sors ça, tu mets ça sur la table et tu mets un petit condiment, de la moutarde, le cornichon qui va bien. Enfin, tu vois, des choses hyper simples, mais hyper saines et hyper bonnes.
Bon, voilà, quelque chose j'essaierai à la maison.
Voilà, non, mais vraiment, c'est super simple en plus.
Merci Christophe. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au Clarence, 31 avenue Franklin Roosevelt à Paris. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.